RCL.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Villon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, le dialogue des religions au menu. L'exécution des otages occidentaux par les djihadistes de l'État islamique. Mais tout d'abord, un bulletin d'information. Et le nord du Nigeria, de nouveau, le théâtre d'une attaque des kamikazes présumés de Boko Haram ont attaqué un campus de Kano, cité par l'agence France-Presse. La police compte au moins 13 morts et 34 blessés. Selon le commissaire de l'État de Kano, des insurgés se sont précipités sur le campus de l'Institut fédéral d'enseignement supérieur après des échanges de tirs avec les forces de l'ordre à l'extérieur. Une explosion a fait sauter les vitres de l'auditorium et le plafond s'est effondré sur les sièges recouverts de sang, selon un journaliste de l'AFP. Difficile négociation à Alger entre le Mali et les groupes rebelles du nord du pays. Pour la deuxième fois cette semaine, les rebelles ont quitté la table de négociation. En cause cette fois, la présence du groupe Haruna Touré. Cette formation avait refusé de signer la semaine dernière la déclaration commune des groupes armés. Ces derniers ne comprennent donc pas pourquoi la CMPFR participe aux négociations. On suit les explications de Moussa Hag Assared, membre du MNDALA qui revient tout juste d'Alger.
Des négociations directes entre les deux parties en belligérance, elles n'ont pas vraiment commencé puisque après les discours des parties et de la médiation, nous avons vu dans la salle des négociations des éléments qui n'étaient pas belligérants et qui se réclament des CMFPR, c'est-à-dire la coordination des mouvements et fonds patriotiques de résistance de Maître Haruna Touré et les responsables des Gatia, un nouveau groupe qui vient de se créer et tous les deux ne sont pas belligérants, même pas signataires de l'accord de Ouagadougou ni de la feuille de route. Donc, n'étant pas belligérants, nous pensons, nous, mouvement de la ZAWAD, mouvement belligérant de la ZAWAD, qu'ils n'ont pas leur place dans cette salle-là. Nous voulons discuter directement avec le gouvernement du Mali.
Moussa Hag Assared, joint par Nicolas Pineau. En République centrafricaine, 10 personnes ont été prises en otage dans l'ouest du pays par les éléments du Front démocratique du peuple centrafricain, le FDPC. Le rapt venu dimanche a été confirmé hier à Bangui. Ces hommes armés exigent la libération de leur chef Martin Koumtamadji, alias Abdoulaye Miskine, détenu depuis septembre 2013 au Cameroun.
Les 10 personnes prises en otage par le FDPC sont des passagers qui revenaient de la frontière camerounaise à destination de Boire, dans l'ouest de Centrafrique. Leur kidnapping rapporté mardi a été confirmé par le ministère centrafricain de la Sécurité publique, mais sans beaucoup de commentaires. Aujourd'hui, l'inquiétude gagne leur famille. Celle-ci réclame des autorités de la transition une action rapide afin d'obtenir leur libération. De son côté, le FDPC pose comme condition la libération de son leader Martin Koumtamadji, alias Abdoulaye Miskine, détenu depuis le 16 septembre 2013 à Yaoundé, au Cameroun. À Bangui, par ailleurs, le parquet vient de lancer une vaste opération de contrôle de centre d'état civil à la mairie centrale. Notons que cette opération va s'étendre progressivement dans les autres municipalités de la capitale et de l'intérieur du pays.
Voilà, c'était Félix Yepassis Zembrou. Au Rwanda, le président du Sénat a démissionné aujourd'hui. D'après le quotidien pro-gouvernemental New Times, cité par l'agence France-Presse, Jean Damascène Ntaou Kouliraio a évoqué des raisons personnelles, mais cette démission unanimement approuvée par les sénateurs intervient après sa mise en cause par 15 membres de la Chambre haute du pays, lui reprochant sa gestion du Sénat. Ntaou Kouliraio reste cependant sénateur, âgé de 53 ans. Il était candidat à l'élection présidentielle de 2010, remportée par le président en exercice, Paul Kagame.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le premier ministre de l'Ukraine a appelé aujourd'hui les forces armées du pays à se tenir en état d'alerte en dépit d'un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. L'appel intervient au moment où les bombardements dans la plus grande ville de la région ont fait 2 morts parmi les civils. Arseniy Yatsenyuk, le premier ministre, donc, a déclaré au cours d'une réunion de cabinet que si le plan de paix établi par l'accord de cessez-le-feu signé le 5 septembre est nécessaire pour mettre fin au combat entre les forces gouvernementales et les séparatistes pro-russes, les ministres de l'Intérieur et de la Défense ne devraient pas dormir sur leur laurier. Alors que les États-Unis États-Unis et leurs alliés se préparent à lancer une campagne d'envergure contre les militants de l'État islamique, le président Obama a tenu aujourd'hui une séance d'information avec ses commandants militaires concernant les détails opérationnels de cette campagne. Plus tard dans la journée, le président américain devait s'adresser aux troupes à la base aérienne de MacDill en Floride. Le chef du Pentagone, Chuck Hagel, a affirmé hier au Congrès que l'effort pour éradiquer l'État islamique est compliqué et prendra du temps. On passe maintenant au dialogue des religions.
Foi et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Au micro, Idrissa Siloudia. Pour ce dialogue des religions du mercredi 17 septembre 2014, les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie ont exécuté un autre otage occidental, le ressortissant britannique David Haines, qui a été décapité le 13 septembre dernier. Tout comme James Foley et Stephen Sutloff, deux journalistes américains. Cet Écossais de 44 ans était lui dans l'humanitaire. C'est en mars 2013 qu'il avait été enlevé en Syrie. Le gouvernement britannique et le reste de la communauté internationale, dont les États-Unis, ont vivement condamné l'exécution de David Haines par les militants de l'État islamique. Dans un discours à la Nation pour annoncer sa stratégie contre ces derniers, le président Barack Obama avait mercredi dénoncé la brutalité unique de l'État islamique, ISIL en anglais, et donné ses précisions.
ISIL is not Islamic. No religion condones the killing of innocents, and the vast majority of ISIL's victims have been Muslim.
Le président Barack Obama a tenu à clarifier d'emblée deux choses. L'État islamique n'a rien d'islamique, ni n'est un État. Aucune religion, a-t-il souligné, n'encourage le massacre d'innocents. Et il a rappelé que la grande majorité des victimes de l'État islamique appartiennent à la religion musulmane. À raison de cette actualité, nous vous proposons encore l'émission que nous avons consacrée il y a deux semaines à l'État islamique et à la décapitation de Foley et Sutloff. Notre invité aujourd'hui, le professeur Suleyman Béchir Diagne, de Columbia University à New York. Professeur, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien. Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Parmi vos nombreux livres, je dirais à nos auditeurs, nous retiendrons pour notre propos en 2001, Islam et société ouverte, la fidélité et le mouvement dans la philosophie d'Iqbal et comment philosopher en islam. En studio avec moi, notre jeune consoeur Sarah Diaby. Tout à l'heure, vos réactions en direct ou sur Facebook et les réponses de notre invité à vos questions et commentaires. Mais pour commencer, d'importantes organisations et de hauts dignitaires musulmans se sont dissociés de ce groupe qui, selon eux, n'ont rien à voir avec l'islam en raison de sa cruauté. Professeur Diagne,
oui.
Comment vous avez réagi vous-même à toutes ces décapitations?
Mais écoutez, avec, je crois, un sentiment d'horreur partagé par tout le monde, c'est le terme qui vient à l'esprit, non seulement à l'idée même de la décapitation, parce que comme beaucoup d'autres gens, je n'ai aucune curiosité pour aller voir à quoi ça ressemble, mais également en me souvenant quelques jours avant d'avoir entendu le plaidoyer pathétique de la mère de cet homme. Cette mère qui en avait appelé à l'humanité des geôliers de son fils d'abord, et qui avait également, j'avais été particulièrement ému par cet aspect de son plaidoyer, lorsqu'elle avait dit qu'elle avait regardé ce qu'il en était de cette religion dont se réclamaient ceux qui retenaient prisonnier son fils, et que ce qu'elle en avait retenu de la... comment dire, du caractère du prophète de cette religion, lui faisait espérer que les gens auraient manifesté bienveillance et miséricorde pour son fils et pour l'appel qu'elle leur lançait. Mais apparemment, elle ne s'adressait pas à des gens qui étaient dans une quelconque continuité avec la religion islamique et le caractère de son prophète.
La religion islamique, d'ailleurs, on commence certains versets du Coran en parlant à Dieu et à sa miséricorde.
Mais oui. Mais je veux dire, ils en font tellement que finalement, plus personne ne croit d'ailleurs qu'il y ait quelque théologie que ce soit là derrière. Une des premières déclarations du président Barack Obama, quand c'était James Foley qui avait été assassiné, avait été de dire qu'un acte comme celui-là ne pouvait être l'acte de quelque dieu que ce soit. On n'a même pas besoin de connaître l'islam pour savoir que ceci n'a absolument rien à voir avec cette religion.
Mais alors, qu'est-ce qu'ils veulent au juste ces gens de l'État islamique?
Ah, mais le savent-ils seulement? Vous savez, j'ai l'impression que cette industrie des otages est à elle-même sa propre finalité. C'est une véritable industrie. Malheureusement, derrière ces deux journalistes qui ont été assassinés, il y a encore beaucoup de journalistes, je crois, retenus en otage et d'autres qui ne sont pas nécessairement des otages. Et cette industrie, au fond, se nourrit de sa propre violence et se perpétue sans qu'on voit très bien quelle est la finalité là derrière, autre que les rançons qui sont demandées.
Ces militants islamistes, comme on les appelle, de l'État islamique, s'en prennent non seulement, n'est-ce pas, à des chrétiens comme Monsieur Sotloff, mais aussi à des non-sunnites, à d'autres musulmans, et on ne comprend pas ce qu'ils veulent au juste.
Et aussi à des sunnites d'ailleurs, à des sunnites, je veux dire, cette espèce de purisme où on s'enferme dans sa propre micro-identité qu'on définit comme la seule vraie, authentique croyance, et évidemment on jette l'anathème sur tout le reste. Et c'est vrai qu'il est bon toujours de rappeler que les premières victimes et les victimes les plus nombreuses de toutes ces exactions commises au nom de la religion sont les musulmans eux-mêmes, qu'ils soient sunnites ou qu'ils soient chiites. Et évidemment, il y a également d'autres communautés.
Professeur, que dit l'islam à propos des innocents? Parce que de toute évidence, Sotloff et son confrère, avant la semaine dernière, étaient des innocents dans tout ce conflit. C'était des journalistes qui couvraient un événement.
Mais oui, d'autant que d'ailleurs, étant journalistes couvrant des événements, c'est très clair qu'ils sont quasiment aussi des ambassadeurs, des émissaires. Et donc, les innocents sont protégés par cette religion comme ils le sont dans toutes les religions humaines. C'est la raison pour laquelle on a le sentiment de ne plus avoir affaire à une religion de toute façon et à quelque humanité et à quelque sens de l'humanité que ce soit. Et cette mère qui en appelait ce qu'elle avait pour elle, bien sûr, elle n'avait pas étudié l'islam, mais elle avait simplement regardé la personnalité de celui qui représente l'islam, qui est le prophète de cette religion. Et on ne peut pas imaginer une seconde le prophète de l'islam dans un cas comme celui-ci agissant comme on a vu.
Le prophète de l'islam, comme vous le dites, professeur, a toujours dit que les religions révélées, tout membre des religions révélées, devrait être protégé.
Exactement. Et vous vous souvenez d'ailleurs, la mère, je crois, disait, évoquait quelque chose de cette nature. Les innocents doivent être protégés. En plus, ceux des religions révélées, les gens du livre, doivent être également protégés. Mais je crois que malheureusement, tout cela nous montre qu'il n'y a plus quelque souci que ce soit d'avoir une cohérence théologique avec les principes fondamentaux de la religion musulmane.
Professeur, j'ai ici avec moi en studio notre jeune consoeur Sarah Diaby et je crois qu'elle aimerait vous poser une question. Sarah ?
Oui, effectivement. Bonjour, professeur.
Oui, bonjour.
Moi, j'aimerais savoir, à votre avis, est-ce que ces personnes qui se disent faisant partie de l'État islamique, à votre avis, est-ce qu'ils ont encore un quelconque sens de l'humanité en eux?
Ben écoutez, ils ne donnent pas cette impression du tout. Encore une fois, quand on a l'impression que la surenchère est dans l'horreur, parce qu'après l'appel de la mère de ce journaliste, on aurait pu se dire que même un souci simplement tactique de relations publiques aurait pu faire que l'issue soit malheureusement autre. Et là, on a l'impression que la surenchère est plutôt dans l'horreur. J'ai entendu des journalistes utiliser le mot d'horrorisme, l'art de mettre en scène l'horreur. Plus c'est horrible quand, dans la mise en scène, et plus ça devrait marcher. Parce que ce qu'on cherche, c'est au fond à choquer tout le monde, à choquer toutes les opinions, toutes les consciences, et de manière tout à fait délibérée.
Professeur, nous avons en ligne Namakan Diakité qui voudrait intervenir. Namakan, allez-y.
Allô, bonsoir.
Bonsoir.
Okay, je suis très ravi pour votre intervention, monsieur. Donc, ce que j'aimerais dire à propos de ça, l'acte que les soi-disant l'État islamique vient de poser, comme l'a dit déjà mes prédécesseurs, est très loin de la religion musulmane. Donc, pour cela, écartons ce côté parce que c'est pas seulement la religion musulmane, à mon avis, parce que je pense que toutes les religions sont venues pour réguler le monde entier. Donc, nous allons dépasser ce cadre. Mais moi, tout ce que moi j'ai compris ici est que tout simplement les Occidentaux et surtout les États-Unis sont en train d'être récompensés de leurs actes, des actes qu'ils posent tous les jours, c'est-à-dire armer ceux qui. Peut-être ceux qui vont se dire musulmans, peut-être juste pour et gaspiller, hein, jeter des discrédits sur la religion musulmane, et je sais qu'ils ne pourront pas. Hein. Les États-Unis, comme je viens de le dire, les États-Unis et les pays qui se disent aussi musulmans, tout le monde le sait, ce sont ces pays qui sont en train, monsieur, vraiment d'armer ces bandits-là qui vont maintenant finalement s'appeler des musulmans pour vraiment détruire les noms, hein, salir tout simplement les noms de notre très belle religion qui s'appelle la religion musulmane.
Merci.
En tout cas, l'appel que moi je vais lancer tout simplement est que les Occidentaux et même ils doivent comprendre que ce qu'ils sont en train de faire aux pauvres que nous sommes surtout en Afrique ici, le fait d'armer, ce que je viens de dire, d'armer les bandits pour qu'ils maintenant essaient de déranger le monde entier en se cachant derrière une religion quelconque, surtout la religion musulmane. Je suis désolé, mais je pense que je regrette vraiment les décès.
Namakan, je crois qu'on a déjà compris votre intervention, votre question, votre commentaire. Professeur, est-ce que c'est votre lecture de la situation? Est-ce que ce sont les Occidentaux qui arment ces bandits, comme il dit?
Enfin, monsieur, c'est bien plus compliqué que les Occidentaux les armant directement, mais monsieur Namakan a mis le doigt sur un point qui est un point important, c'est que finalement, cette organisation a bénéficié de soutien et de financement qui sont passés, on le sait, par un certain nombre de pays arabes, de pays musulmans aussi, qui aujourd'hui s'en mordent les doigts, j'imagine. Mais ils ont effectivement été un petit peu aidés au début, et les armes qu'ils se sont procurées sont là pour le dire. Il y a également les armes qu'ils ont saisies sur l'armée irakienne lorsque celle-ci a été mise en déroute dans les premiers jours de l'invasion de l'Irak. Donc les choses sont très compliquées, mais M. Namakan a peut-être raison d'attirer l'attention sur les conditions même qui ont rendu possible une organisation comme celle-là.
Donc vous faites allusion à l'aide que certains pays arabes, d'importants pays arabes, ont apporté à ce mouvement en Syrie, quand ce mouvement se battait contre la Syrie.
Exactement, oui.
Le président Assad, dont par exemple des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou le Koweït.
Oui, le Qatar en particulier.
Le Qatar veut le renversement. Donc,
voilà. Mais oui, parce que le but alors était de soutenir ceux qui se battaient contre Bachar al-Assad au nom de réflexes sectaires. Effectivement, on soutient telle organisation parce qu'elle nous semble l'organisation la plus puriste, celle qui aurait l'interprétation la plus orthodoxe de la religion. Et ça nous dit aussi qu'il faut que le monde de l'islam sache cultiver en lui le pluralisme. Ça, c'est important. que la moindre identification sectaire se mette à jeter l'anathème sur tous les autres. Si vous n'êtes pas comme moi, si votre interprétation n'est pas la mienne, si moi je suis chiite et vous sunnite ou l'inverse, vous n'êtes pas un vrai musulman. C'est le genre de choses que justement cette religion interdit. Il faut se rappeler que c'est même dangereux dans la religion musulmane de se mettre à douter du caractère musulman de quelqu'un d'autre. Je n'ai jeté l'anathème sur d'autres parce qu'ils ne pensent pas exactement comme vous, qu'ils n'ont pas la même interprétation. C'est une chose que nous devons cultiver dans le monde de l'islam.
Sarah ?
Oui, effectivement, moi je voulais justement rebondir sur cette question d'interprétation du texte coranique. Je me demande, est-ce que ces personnes-là, est-ce qu'ils ont compris en fait le sens de la religion ? Parce que moi j'ai lu quelque part que le mot paix revenait plus de 668 fois dans le Coran. Et le mot amour qui revient aussi dans la Bible presque 300 fois. Et alors que le mot guerre, par exemple, revient 8 fois dans le Coran. Et donc, est-ce que ces personnes-là, est-ce qu'ils ont seulement compris en fait le sens du djihad? Parce que c'est ce mot-là en fait qu'ils prennent pour causer tous ces torts autour d'eux. Et qu'est-ce que vous dites de ça, en fait ?
Écoutez, moi, je ne suis pas loin de penser, comme notre interlocuteur de tout à l'heure, Monsieur Namakan, oui, que même si on se met à discuter interprétation, c'est comme si on prenait au sérieux le fait qu'il y a là, derrière, une vraie interprétation, une vraie théologie.
C'est ça.
On finit par traiter ces meurtres comme quelque chose qui aurait une signification religieuse, alors qu'il ne peut pas y en avoir. Ce n'est même plus une discussion théologique d'interprétation différente, c'est véritablement simplement des actes qui heurtent la conscience humaine en général avant même des considérations religieuses. Mais bon, par ailleurs, et vous avez raison aussi de dire que si maintenant on regarde la religion dans son détail, vous avez donné des chiffres de nombre de fois où le mot paix revient. Mm-hmm. Même le mot islam, sa racine c'est salam, c'est la paix, c'est le même mot qu'on retrouve dans islam et le même mot quand je vous dis assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. La racine elle-même est constituée à partir du mot paix. D'ailleurs, il y a toujours des traductions approximatives qui disent « Islam signifie soumission à Dieu ». Si on traduit directement par soumission, on ne sait plus pourquoi le mot « soumission » aurait à sa base la racine « paix ». C'est beaucoup plus, c'est moins l'idée d'une soumission, comme s'il s'agissait de se soumettre à une force extérieure, que l'idée, au contraire, de se rendre paisiblement à soi-même, de coïncider avec soi-même et de coïncider avec son Seigneur. Et comme vous le voyez, évidemment, ces réflexions-là n'ont absolument plus rien à voir avec ce qui semble mouvoir ces gens-là.
Professeur, si vous le permettez, j'aimerais lire quelques réactions sur Facebook. Philippe Goumou, cela est très dérangeant. Mugisho Chabani Mouezé, depuis la RDC, je condamne avec la dernière énergie la décision de l'islam et je leur demande d'en rassurer et de nous rassurer si l'islam est une religion ou un groupe armé. Je crois que le professeur a déjà répondu à la question. Fabrice Lutette, et c'est vraiment triste. Manuel Gerson, ce n'est pas pour la religion. Il n'a pas la relation entre religion et politique. Hans Lussolo, les Américains allumaient le feu sans pour autant s'imaginer que ce feu pourrait être incontrôlable et dangereux pour les citoyens américains. Il faut un contre-feu pour l'éteindre. Idrissa Akiba Baleke, la vie est sacrée, chers musulmans, personne n'a le droit d'ôter la vie à l'autre, mais votre religion vous trompe, dit-il en disant le djihad. Dieu voit tout depuis la RDC. Alors, je crois que là aussi, le professeur a rétabli tout dans le contexte qu'il fallait. Ça n'a rien à voir avec la religion. Good spell, Ntumba Gosfouin, la vie humaine est sacrée. La suite, si vous allez me contacter, bon, etc. Inza Dumbia, de par vos agissements, vous faites du tort à l'islam, dit-il à l'État islamique. Christian Djerabé, c'est un message aux Occidentaux pour leur intervention. Jafet Jafar Sangara, je suis Jafar Amissi depuis la RDC en tant que musulman pratiquant. L'islam interdit de tuer l'autre. Je ne suis pas d'accord avec ce fameux djihadiste qui croit qu'ils auront le soutien de tous les musulmans. Un autre auditeur qui nous appelle. Allez-y. Présentez-vous, cher auditeur. Rodrigue. Allô?
Allô?
Oui, Rodrigue, allez-y.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bon, je voulais intervenir à la question. Donc, dis-moi, je ne sais pas. En réalité, l'islam, je ne sais pas comment l'islam s'est né et l'islam est venu dans le monde pour créer seulement des troubles. Parce que moi, je sais que non, une bonne religion, il faudra au moins avoir l'amour du prochain. Et alors, l'islam, avec les choses du terrorisme, vient de semer des désordres dans le monde. Je ne sais pas, partout on parle seulement des guerres. Et ceux qui sont dans les têtes de ces guerres, ce sont toujours les terroristes et ce sont les musulmans. Et je ne sais pas, si nous partons directement concernant la Bible et la religion, l'islam, donc nous voyons que l'islam est venu pour éliminer tous les chrétiens dans le monde. Et alors, Dieu a besoin que les gens se convertissent et non les gens meurent seulement comme ça. Parce que la Bible nous dit clairement que non, l'Éternel ne veut pas que les gens meurent avec leurs péchés. Et alors, si et les musulmans voient réellement que non, nous, soit les chrétiens ou soit d'autres personnes, ne marchent pas comme Dieu l'Éternel, ils peinent encore nous montrer autre chose, notre voie. Mais ils ne peuvent pas normalement
nous montrer. Rodrigue, bon. Pour donner la chance à un autre auditeur, laissons le professeur Bachir Diagne répondre à votre intervention.
Oui, alors c'est toujours la même chose. Quand on dit l'islam ou les musulmans, l'islam tient la vie humaine pour sacrée. L'islam s'interdit encore une fois d'attaquer les gens du livre, les chrétiens. Donc quand on dit l'islam, en réalité, on ne sait même plus de quoi on parle. Je vous donne simplement un exemple, je vous donne un contre-exemple. Ce n'est pas pour faire un jeu de ping-pong, mais vous donner un contre-exemple. Vous savez qu'en Ouganda, il y a cette guérilla qu'on n'arrive plus à éradiquer, l'armée du Seigneur ou quelque chose comme ça, qui est censé être un groupe chrétien. Mais personne n'a jamais pris au sérieux le caractère chrétien de ce groupe. Tout le monde estime que c'est de la folie pure et simple. Personne
l'organisation de Joseph Kony.
Les chrétiens en Ouganda. Pour cette armée dite du Seigneur qui a une théologie tout à fait bizarroïde, lointainement basée sur une conception de la Bible ou des choses comme ça. C'est la même chose. Pourquoi prendre au sérieux la théologie qui anime des gens qui, visiblement, commettent des meurtres contre leurs propres principes et leurs propres valeurs? L'islam, c'est plus d'un millénaire de civilisation. C'est la religion d'un milliard d'individus qui sont de par le monde. Et quand vous dites les musulmans parce que vous avez des actions comme celle-là, on perd le sens des mots. Parce que si ces gens-là sont acceptés comme représentants d'islam, ils ont gagné. Parce que c'est précisément cela qu'ils veulent.
Merci. Merci, professeur. Malheureusement, pour les auditeurs qui attendaient patiemment là, pour intervenir, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voulais tout simplement et très brièvement, professeur, il nous reste à peine une minute.
Oui.
Ce genre d'intervention, ce genre de réaction ou de commentaire sur l'islam, vous regardez autour de toi, il y a Boko Haram, il y a Al-Shabaab et j'en passe, tous ces groupes qui font des tas d'horreurs et automatiquement les gens tirent ce genre de conclusions.
Bon, c'est probablement inévitable. Nous vivons une époque qui est comme cela, ou une époque où il faut parler très vite, où il faut avoir des phrases très générales et qui, au fond, ne veulent rien dire, du genre « les musulmans font ceci ou cela », comme si un milliard de musulmans faisaient la même chose. Vous savez, moi, je donne un enseignement là où je suis de philosophie islamique. J'en ai donné un hier. Quand j'en parle, je parle des valeurs de cette religion. Donc j'ai le sentiment que quand on parle d'autre chose, de ce qu'on voit dans les journaux, ça n'a strictement rien à voir avec ce dont
alors,
on parle.
Alors, je recommande aux auditeurs d'aller acheter Islam et Société Ouverte, la fidélité et le mouvement dans la philosophie d'Iqbal et comment philosopher en islam, des œuvres du professeur Bachir Diagne. Cette émission a été en direct il y a 2 semaines. Depuis, l'État islamique a décapité un troisième occidental, l'humanitaire britannique David Haynes. C'était au micro Idrissa Seloudia, à la réalisation Joselle Morissin. À la prochaine, Washington, la Voix de l'Amérique.